One, two, three, ho!
One again, beast
ça s'entend pas les masques, enfin ça coupe pas.
Un peu, mais bon.
Ça feutre un peu ma voix, non? Je pense le tien, ouais, il est bien épais, même s'il est, ouais. Est super héros inside.
Ouais, j'adore la coupe et puis le.
Oui, il y a un côté steampunk un peu.
Ouais, j'adore aussi. Eh ben, tu dis, Mathieu, moi je suis chaud. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, l'émission qui parle vélo utilitaire, l'émission qui sauve la planète. Aujourd'hui, on est avec Camille. Comment ça va, Camille ?
Très très bien.
Et Mika, ça roule Mika ?
Ça va et vous ?
Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Mika ?
D'une pénurie mondiale qui touche aussi le vélo.
Camille, vous avez fait, t'as vécu un truc un peu particulier en vélo cette semaine, quelque chose que t'as trouvé sympa ?
Oui,
ouais,
hier.
Hein. T'as fait quoi ?
Eh bien, j'ai dû me déguiser en Catwoman pour être filmée sur mon vélo et promouvoir les héroïnes du quotidien sur leur vélo. Et j'ai eu beaucoup de succès auprès des passants. J'ai failli causer des accidents parce que les gens ne regardaient plus la route.
Alors, la tenue de Catwoman était très sexy. Mika, je te jure que t'as loupé quelque chose.
Ouais, je loupe beaucoup de choses en ce moment.
Alors Camille, si t'es d'accord, on va mettre une photo sur la version YouTube. On mettra aussi un petit truc sur Facebook. Je vous invite à aller voir les images, les gars. Et toi, Mika, t'as vécu un truc un peu sympa cette semaine ?
Bah écoute, rien d'exceptionnel. Hein. Une utilisation de vélo tout à fait classique pour moi.
Alors je suis passé à la boutique de Mika, puisqu'il est mécano, puis il travaille dans une boutique, Mika. Et il y avait deux personnes qui venaient chercher un vélo électrique, et il a passé son temps à dire « Oui, bah là, on n'a plus que cela, oui, bah là, il n'y a plus que ça. » C'est vraiment...
C'est fou,
ouais. Ouais, 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 d'où la chronique.
Ouais,
pour expliquer un petit peu tout ça.
Alors, on sait que le vélo a fait énormément pour la cause des femmes. Et Camille, tu vas encore nous parler du lien entre vélo, le vélo et les filles.
J'ai fait une super découverte cette semaine que je tenais absolument à vous partager. Ça s'appelle Un autre cycle. Il s'agit de deux copines, deux jeunes lilloises de 29 et 31 ans, qui s'appellent Océane et Louise, qui ont eu l'idée d'un projet fabuleux qui va tout révolutionner.
C'est pas vrai.
Nous sommes toutes oui.
Alors, c'est un Tour de France en cargo de 3000 km à la rencontre de femmes qui utilisent le vélo comme outil pour plus de liberté, d'égalité, de mobilité, d'émancipation. Un voyage qui sera en partie encadré par une équipe de tournage pour réaliser un documentaire dans le but de tenter de mettre plus de nanas sur des vélos.
Yeah, c'est voilà. Ça qu'il faut.
Donc elles partent le 8 mai, reviennent le 29 juin. Elles vont rencontrer toutes sortes de femmes, donc des livreuses à vélo, des cyclistes professionnelles, des cyclo-randonneuses âgées et expérimentées, des ateliers de mécanique créés par des femmes et pour les femmes, des réfugiés afghanes qui ont appris à pédaler en France car dans leur pays, c'est interdit.
Qui sont devenues coureuses, non ? Parce que j'ai vu...
t'as entendu parler de ça ?
Ouais.
Ah oui, elle courait avec le voile et tout, ouais, exactement.
Mmh, voilà.
J'ai vu deux coureuses de bon niveau.
Ouais, ouais.
Et il y aura aussi des groupes de cyclo-voyageuses qui les accompagneront sur des parties de leur trajet. Par exemple, Paris-Nantes. En fait, oui, ça a créé une espèce de synergie sur Facebook, parce que pour l'instant, ils ont communiqué là-dessus. Et du coup, elles sont contactées par plein de nanas qui veulent les accompagner. Donc, ça va peut-être, au lieu d'être deux copines, elles vont peut-être se retrouver toute une bande voilà, de nanas à vélo. Elles rencontreront même Élise Delzen, l'ancienne championne de France sur route et sur piste, qui s'est lancée désormais dans l'ingénierie textile et qui commercialise des produits adaptés aux femmes. Donc à la base, Louise est une habituée du voyage à vélo qu'elle pratique depuis 6 ans. D'ailleurs, c'est une femme qui l'a mise sur un vélo et à la rando. Elle a constaté qu'elle était assez seule en tant que femme lors de ses voyages, d'où l'idée de ce projet. Sa copine Océane a plutôt une pratique urbaine de la petite reine et un regard social et sociétal d'ailleurs. Pour elle, c'est vraiment le baptême du feu. C'est vrai que moi, dans mes propres voyages, j'ai rarement vu des femmes seules à vélo, c'est pas pour vous.
Alors, je connais une copine, Laura la cyclonomade, d'ailleurs, si tu nous écoutes, qui elle a fait même une conférence sur les filles qui voyagent seules. Pourquoi faudrait pas hésiter, faut y aller quand même. Enfin, essayer d'encourager et puis ouais. de donner quelques petits conseils. Donc, il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que c'est très rare.
Ouais, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler. J'avais deux warm showers à la maison. C'était voilà. deux sœurs.
Mais elles sont deux.
Ouais, elles étaient
voilà.
deux.
Généralement, ouais. elles sont entre copines.
Et j'avais une demande d'une dame qui était presque toute seule. Elle était avec son chien.
Ah, excellent. Donc, généralement, moi, j'en crois surtout en couple ou entre copines. Et surtout, j'ai jamais vu de mère seule en voyage à vélo. À part moi-même.
Ouais, ouais. Avec ta fille. Ouais.
Donc, vraiment, il y a un truc à promouvoir, là. À changer. Ah, donc elles sont tellement portées par leur projet qu'elles ont tout lâché. Boulot, appart, et que suite à ce premier voyage en duo, elles comptent partir fin août à l'aventure pour une année minimum en cyclo-voyage. Et du coup, j'ai bien envie de tout lâcher pour les accompagner.
Eh ben, pourquoi pas ? C'est quand, ça ?
Fin août.
D'accord.
Donc, elle cherche donc à casser les repères. Alors, cette sorte d'ego masculin du cycliste voyageur qui veut faire le plus de kilomètres à la plus grande vitesse possible.
Ah, non.
Et qui sait qu'à la plus grosse fourche.
Ça coche, ouais, d'accord.
Alors, voilà, je suis trop contente d'avoir découvert ces deux super nanas, Louise et Océane, qui ont des choses à prouver et qui, elles aussi, en ont dans le cuissard. Et je les en remercie au nom de toutes les femmes à vélo. Je vous invite donc à suivre leur périple et leur rencontre sur Facebook et Instagram au nom de Un Autre Cycle.
Un Autre Cycle, d'accord. Moi, quand je voyage à vélo, je fais pas mon bonhomme. Moi, c'est les vacances.
Oui.
J'évite plus de 40 bornes par jour. Moi, j'aime bien m'arrêter pour regarder les petites fleurs, bouquiner, m'approprier un endroit. Mais bon, on transpire évidemment, mais plus. Enfin, je dis souvent avec les copains quand on part comme ça, le premier qui transpire a perdu, quoi. Tu voyages un peu, Mika, aussi, ouais.
J'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de voyages. J'ai fait un voyage de 3 jours une fois avec des amis. Et, en effet, c'était pas la performance qui comptait. C'est plus un moment de partage, découvrir des endroits. Enfin, c'est comme ça que je vois aussi le voyage à vélo.
Et voilà la nouvelle chronique de notre cyclo-voyageur attitré. Peut-être pour moi, c'est le plus grand cyclo-voyageur francophone de tous les temps. Il a passé le YAC, hein, Claude Marteller, il a passé plus d'un tiers de sa vie en cyclo-voyage, plus de 55 ans aujourd'hui. Et il nous fait une chronique, la chronique du YAC sur Robert Marchand.
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une personne merveilleuse, probablement le doyen de tous les cyclistes. Il s'agit de Robert Marchand, qui aura son, tenez-vous bien, 109e anniversaire. J'ai eu la chance, la grande chance de le rencontrer avec Hans Stücke, qui est une autre personnalité du vélo, dont j'avais raconté l'histoire, qui a passé 50 ans de sa vie autour du monde en voyageant. C'est un article que j'ai écrit il y a quelques années, après l'avoir rencontré chez lui, dans un petit appartement encombré de plein de souvenirs de cyclistes professionnels qui lui ont amené des coupes, etc. Il a même une bouteille de vin Robert Marchand, un col qui s'appelle le col Robert Marchand. Et il a battu nombre de records à partir de l'âge de 100 ans. Après l'avoir traversé, le centenaire Robert Marchand est entré dans l'histoire en 2012. Consacré double recordman du monde de cyclisme, ce grand homme d'1m52 pour 50 kilos me reçoit chaleureusement dans son modeste appartement de la banlieue parisienne en débouchant une bouteille de vin. « Celui qui n'a pas fait de bicyclette n'est pas un homme », annonce d'entrée le grand Robert. Une sorte de gloire tardive lui est tombée dessus comme une météorite. De frêle stature, malicieux et prolixe, ce vel homme, chaleureux, dégage une vibrante énergie. « Tu as mangé de la soupe », s'exclame-t-il en me serrant la main. Ses étagères sont remplies de coupes et de documents en son honneur. Son VTT d'intérieur, qu'il utilise par mauvais temps, trouve juste la place à côté de son lit. À 102 ans et 450 000 km au compteur, ce champion atypique ne porte toujours pas de lunettes pour lire et mène sa barque comme il l'a toujours fait. Emplette, repas, entraînement, mais, concède-t-il, le plus dur c'est de faire le ménage. Je n'ai jamais compris qu'une femme doive le faire. Ses yeux bleus, surmontés de sourcils épais, pétillent. C'est formidable les femmes qui pratiquent le cyclisme de compétition. L'OVNI du cyclisme. La longue vie de Robert, qu'il décrit en forme de montagne russe, avec l'impression d'avoir été plus souvent dans le creux qu'au sommet, n'a rien d'un long fleuve tranquille. Quand je me retourne, je me rends compte que toute ma vie s'est déroulée sur le même schéma. Me raccrocher au travail pour survivre, depuis mon plus jeune âge, passer d'un boulot à l'autre, avec toujours des galères, jamais d'argent, de côté, pour voir venir. Robert Marchand naît le 26 novembre 1911 à Amiens. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, son père est mobilisé et il ne le reverra qu'à l'âge de 8 ans. Bien plus tard, en 1941, il le perd, des conséquences des gaz de combat et un penchant pour la bouteille. Micheline, qui fut un temps sa femme, prendra hélas le même virage. Robert exercera divers métiers sans jamais quitter le sport. Boxe, gymnastique, cyclisme. Il fut pompier à Paris et professeur de gym pendant la guerre. En 1947, il émigre au Venezuela où il connaît pendant 8 ans, diverses fortunes. Puis il travaille comme bûcheron au Canada. Il finit par s'installer comme maraîcher à Mitry-Mory, en région parisienne, et touchera également au commerce de vin. Robert Marchand aurait pu, comme tout le monde, prendre une retraite tranquille. Mais à 67 ans, ce passionné échappe une fois de plus à toute définition du petit Robert. Il réenfourche sa bécane pour ne plus en redescendre. Si bien qu'aujourd'hui, l'OVNI du cyclisme totalise un palmarès époustouflant de 300 rallyes cyclistes. À 60 ans, il aurait souhaité réaliser un grand voyage à bicyclette. Mais aujourd'hui, son véritable regret, c'est de n'avoir pas suivi d'école. Qui va piano, va sano, va lontano. Dans son livre, J'ai eu 100 ans, et alors ? Il écrit, l'argent ne fait pas le bonheur, je peux en témoigner, moi qui ai toute ma vie mangé de la vache enragée. Bien au contraire, la recherche d'accumulation ronge de l'intérieur et finit par détruire l'homme. Le bonheur, pour ma part, je le trouve dans les choses simples qui rassemblent davantage. C'est dans le sport que je puise mon bain de jouvence et je reste persuadé que la pratique du sport, au sens le plus amateur du terme et donc le plus noble, est un atout pour faire évoluer les mentalités, pour découvrir les vertus du vrai partage, de la fraternité, de la mixité sociale. Donner du bonheur aux autres, c'est soi-même afficher son propre bonheur et croire que celui-ci est contagieux. À ce cas unique, parmi les 17 564 centenaires en 2012 que comptait la France et dans les annales du cyclisme mondial, la mort ne fait pas peur. Je ne veux pas finir grabataire, mime-t-il sur sa chaise, autant prendre des pilules pour mettre fin à mes jours. D'après la physiologiste Véronique Billa, les capacités physiologiques et cardiaques de Robert Marchand sont celles d'un homme de 45 ans, soit 5 ans de mieux qu'en 2012. À l'arrêt, son cœur bat à 60 pulsations minute, en plein effort, il pulse à 120 minutes. Pour sa prochaine tentative, son rythme cardiaque pourrait ainsi monter à 140, mais pas dépasser les 190. Le secret de sa jeunesse ? C'est Hans Stücke, un autre roi du vélo et ami âgé de 73 ans, mais ayant accompagné à vélo depuis Paris, qui le lui demande. Pas de cigarette, pas de café. Je mange avec modération, plus à midi que le soir, en évitant les graisses. Au petit déjeuner, une banane et du yaourt. Mes repas sont à base de légumes, de poissons, d'œufs, de viande blanche, une fois par semaine. Et puis beaucoup de laitage, du fromage blanc de préférence et des fruits. Jamais de charcuterie. J'aime sortir de table avec une petite faim. Un peu de miel dans mon bidon et juste un verre de vin, parfois pour trinquer avec des amis, mais pas de rosé ni de blanc. Je me lève tôt, je me couche tôt. C'est tout. C'est aussi sa capacité d'adaptation qui en étonne plus d'un, malgré des problèmes auditifs qui pointent. Pour établir ses deux records actuels, il a dû s'habituer aux pignons fixes et aux cales, et surtout à remonter sur une piste, la première fois depuis 1937. Magali Humbert-Perret, qui fut pendant 10 ans l'une des références mondiales du cyclisme sur piste, et l'entraîna pour son record de l'heure au Vélodrome d'Aigle, le décrit comme un sportif doué et insouciant, privilégiant le plaisir. Diable d'homme qui défie le temps. Même s'il fait l'unanimité, je doute que le monde du sport prendra un jour de la graine auprès de ce diable d'homme qui défie le temps en emportant un bidon d'eau claire avec une cuillère de miel. Pour ceux qui seraient tentés de trouver l'élixir de jeunesse ou une forme de transcendance, le grand Robert répond par la simplicité et la modération en toute chose. Je ne fais pas cela pour être un champion, mais pour prouver qu'à un âge avancé, on peut encore faire quelque chose. J'ai l'impression d'avoir atteint tous mes objectifs et ma vie semble aller en roue libre. Ce que je veux, maintenant, c'est durer. Depuis 2011, un col en Ardèche, perché à 911 mètres, porte son nom. En attendant, le 31 janvier 2014, au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, Robert Lespiègle tentera de battre son record du monde de l'heure pour l'établir à plus de 25 km à l'heure. Ce qu'il a fait, on n'en doute pas.
Eh ben, ça conserve le vélo. Tu connaissais Robert Marchand, tu disais, Mika ?
Oui, en fait, quand j'étais plus jeune, il y a bien longtemps, et il était bien sûr déjà sur son vélo, il était déjà vieux. Ouais. C'était déjà le vétéran. Et en fait, il vient de région parisienne, et moi, j'ai commencé à faire du vélo avec mon grand-père, avec toute la famille, et on croisait souvent Robert Marchand, qui était un voisin. Et souvent, pour la petite histoire, il avait toujours la coupe du plus vieux, hein, et ouais. Moi, j'avais celle du plus jeune.
Ah, voilà, c'est classe.
Et voilà, c'est un personnage très, très attachant.
Mais c'est vrai que tu disais il était déjà vieux. Moi j'ai le sentiment que j'ai des copains, mes parents ou des voisins du village où je suis né, ils ont toujours été vieux. Aujourd'hui ils sont vieux, mais déjà quand j'étais petit ils étaient déjà vieux. Je sais pas comment ils font. Ils sont vieux très longtemps.
Et moi quand j'étais petit il avait déjà genre 95 ans. C'était fou quoi.
Attends, il a
107 je crois.
107 aujourd'hui, ouais, un truc comme ça.
La preuve que le vélo ça entretient.
Ah ouais, c'est bon pour la santé. Encore faut-il qu'il y en ait, hein, Mika.
Ouais, et pour ça on va jouer un petit jeu. Si je vous dis 117%.
La
hausse de d'amateurs de vélos.
De vente de vélos.
Ouais, vous êtes pas loin. C'est en fait le pourcentage de hausse de vente de VAE pendant le premier confinement.
Ah, vélo électrique, ok.
Ouais, vélo assistance électrique, pardon. Si je vous dis 11 000.
11 000, c'est le nombre de vélos que les gens ils ont abandonnés, enfin qu'ils se disent c'est mort, je vais même pas pouvoir en avoir.
Ah, pas mal. Non, c'est le nombre de vélos cargo vendus en 2020. Yes.
11 000.
Je ne suis plus toute seule.
Contre 3 000 en 2019. Pour vous dire la hausse.
Incroyable. On passe de 3 000 en 2019 à 11 000 en 2020.
On multiplie quasiment par 4.
Énorme.
C'est, alors, ça peut paraître en chiffres, 11 000, ça peut paraître pas énorme, mais on est quand même sur
ça,
une
c'est
hausse.
En France.
Oui, là, je parle de la France. Ouais. On continue. 80, si je vous dis 95%. C'est beaucoup, 95%.
C'est de...
Ça peut représenter quoi, ça ?
De la pratique, il y a eu 95% de déplacements en plus, de kilomètres effectués en plus ?
Non, c'est le pourcentage, et là c'est un petit peu moins folichon, c'est le pourcentage de composants d'un vélo qui proviennent d'Asie.
Ah la vache, donc en cas de pénurie, c'est foutu, quoi.
Bah, pénurie, ça complique un peu nos affaires.
Ah, le canal de Suez qui était bloqué, ça a tout...
Ouais, ça a pas arrangé les choses. Enfin, 700 000.
700 000, c'est le nombre de vélos vendus à travers le monde ?
Oh là là !
Non, 700 000, c'est pas beaucoup. Non,
700 000, c'est la différence de vente entre 2019 et 2020 en France. C'est-à-dire qu'il y a eu 700 000 vélos de vendus en plus
que d'habitude
par rapport à 2019.
Et c'est combien d'habitude ? Parce que j'ai vraiment aucune idée.
Là, en France, aujourd'hui, je crois qu'on était, en 2020, on était à 2 ou 3 millions.
D'accord. Ah oui, donc ça fait un pourcentage important.
On est passé, oui, voilà. Je crois que, si je vous dis pas de bêtises, on est passé de 2 millions 6 à 3 millions 5.
Et tu comptes vélo mécanique plus vélo électrique ?
Oui, là, toute forme de vélo, avec les cargos, avec tout.
Ok. C'est énorme, énormissime ce qui se passe.
Donc vous l'aurez compris, je vais vous parler de la pénurie à laquelle on fait face aujourd'hui. Fait face aujourd'hui l'industrie du cycle. Alors, pourquoi cette pénurie ? Quelles en sont les causes ? Et ainsi... les conséquences. Il ne vous a pas échappé que depuis plus d'un an maintenant, on fait face à une pandémie. Nos masques, c'est pas que pour le style. Avec pour effet la fermeture de bon nombre d'usines. Les usines de pièces détachées de vélos ne font pas exception. Il y a donc un retard considérable quant à l'approvisionnement des pièces. Le Covid a eu pour effet également de faire augmenter de manière exponentielle la pratique du vélo, on en a déjà parlé. Que ce soit comme moyen de transport, merci les coronapistes, mais aussi comme loisir. Enfin, si nous prenons le seul cas de la France, le coup de pouce vélo, dont on a également parlé, a été un grand succès. Pour rappel, combien de vélos ont été réparés entre mai et mars ?
2 millions.
2 millions, exactement.
Yes. 2 millions, enfin,
de... 2 millions de vélos en tout ont bénéficié de mai 2020 à mars 2021 de cet coup de pouce vélo.
Et puis du coup, il faut des pièces pour ces 2 millions de vélos-là.
Et je vous le donne en mille, en effet, il a fallu en changer des pièces. Et donc, en présence d'une forte augmentation de la demande de vélos de tout type, et en parallèle, nous faisons face à donc une pénurie de pièces, donc le vélo, forcément, à un moment... ça coince. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pour le consommateur ? Parce que c'est quand même ça qui va nous intéresser. Eh bien, là où avant vous vous rendiez chez votre marchand de cycles, il y avait un large choix de vélos, avec des délais raisonnables pour commander et recevoir sa monture. Aujourd'hui, sorti de ce que l'on peut trouver dans les magasins, il n'y a rien. Enfin si, mais la patience devra être de rigueur. Pour un vélo commandé en avril, en fonction des marques, vous pouvez espérer au mieux le recevoir à l'automne prochain, au pire, dans un an. Hier, pour vous faire une petite idée, je regardais un pneu bien connu des cyclo-voyageurs, le Marathon Plus, quasi increvable. Dans une certaine section, il était disponible en janvier 2022.
Le truc de fou.
Pareil pour les pièces, même sur Internet, ça devient compliqué de trouver son bonheur. En conséquence, le consommateur doit se contenter de vélos qui potentiellement ne vont pas être au prix qu'ils auraient souhaité, de la couleur qu'ils auraient souhaité, ni la marque, le modèle... Il faut donc s'adapter. Moi, je prends l'exemple un petit peu des quand vous cherchez une maison, finalement. Il y a plein de maisons. Ouais. Il y en a plein qui vous plairaient, mais il n'y en a pas beaucoup en vente. Donc, on s'adapte un petit peu au marché, quoi. Mmh. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile de switcher mentalement là-dessus, parce qu'on n'a pas l'habitude de devoir faire ce type de concession. Et donc, pour les marques de vélos, qu'est-ce qui se passe ? En fait, leur problème, c'est que bien que eux aussi, ils aient eu du retard dans leur production, la plupart, ils ont les cadres, les fourches. Mais le vélo sans frein, sans dérailleur, ça roule moins bien.
Ah, puis il n'y a pas 36 marques hein, de freins de dérailleur.
Il y a un monopole. Bah,
voilà. Et tout vient, donc, comme on le disait, 95%, ça vient des usines asiatiques. Donc voilà pour les marques de vélo. La plupart d'entre eux donc, doivent revoir les modèles, changer les marques de transmission prévues, les marques de pneus aussi. En conséquence de tout ça, le prix est impacté.
Hein. Ah oui, ça monte en flèche.
La quasi-totalité des vélos et pièces ont déjà et vont encore augmenter. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire que le prix des conteneurs pour ramener tout ce petit monde d'Asie a lui aussi augmenté. Quadruplé, pour être plus exact.
Ah ouais.
Et je pense qu'on va pas à la baisse non plus à ce niveau-là. Après, il ne faut pas voir que les aspects négatifs. Déjà, le gros point positif de tout ça, c'est que concrètement, le vélo a la cote. Et on ne peut que s'en réjouir.
Ouais.
Ensuite, on remarque une prise de conscience chez les fournisseurs qui ont, pour beaucoup, compris la leçon et commencent à ramener la production en Europe. Alors, la production, c'est quand même à minimiser. C'est plutôt de l'assemblage. Hein. On va vendre des vélos qui vont rarement être une made in France. Il y a encore une niche, mais qui est assez faible. Mais par contre, de plus en plus, on assemble en France. Ce qui sous-entend de la création d'emplois aussi.
Donc c'est déjà pas mal.
C'est quand même intéressant. On voit également le marché de l'occasion prendre un essor considérable. Chose qui ne peut que remplir de bonheur nos petits cœurs de cyclistes écolo-bobos.
Oui, j'ai trouvé des vieux vélos en plus.
Enfin, on n'a pas fini de vous embêter avec le vélo. Parce que si je vous dis prime à la conversion, ça vous parle ?
Prime à la
conversion.
Ah oui, c'est très récent ça, oui.
Et ouais, une prime à la casse vélo. Pour la mise à la casse d'une voiture polluante, une prime va être proposée. Ça a été voté à l'Assemblée la semaine dernière. Donc pour l'achat d'un vélo électrique, par contre. Et même un petit bonus pour les vélos de type utilitaire, donc vélo cargo. Je sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de croiser mon plombier en vélo cargo.
Ah, il y en a.
Mais ça, le coût de la prime, tu mets ta voiture à la casse et on te file pas des thunes pour acheter une nouvelle voiture, mais on te file des thunes pour acheter un vélo. Alors ça, c'est bon.
C'est tout nouveau. Ouais.
Parce que quand on a 100 cyclistes en plus dans une ville, malheureusement, il y a que 7% qui viennent de la voiture. Et les autres, c'est des piétons qui se mettent au vélo ou des gens qui étaient dans les transports en commun qui se mettent au vélo. Donc ce genre de mesure là, on dit, on enlève des voitures pour les remplacer par des vélos, mais alors ça, c'est du bonheur en barre.
Exact.
Eh bien, je vous propose qu'on retrouve Frédéric Errand. Vous savez, on l'a interviewé et puis c'était extrêmement riche, donc on a coupé l'interview en 3 parties. Et je lui posais la question sur, a-t-on besoin d'une logique de crise pour que le vélo s'impose ?
Disons, on a besoin de ça pour accélérer rapidement la pratique, oui. Mais elle augmente quand même assez vite grâce à plusieurs phénomènes. Il y a au moins 4 cercles vertueux qui tournent en ce moment en faveur du vélo. D'abord, un effet de club. Un effet de club, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus il y a de cyclistes, plus ils s'entraident, plus ils sont puissants, plus ils peuvent faire pression, et donc plus ils peuvent encourager le vélo, et donc plus il y a de cyclistes. Vous voyez, ça tourne, et là on le voit bien avec la Fédération des usagers de la bicyclette. C'est incroyable, ils sont dans une dynamique de croissance incroyable. Ils ont maintenant plus de 400 associations adhérentes. Moi, j'ai fait partie de la FUB, de la direction de la FUB dans les années 90. On était une trentaine d'associations à l'époque, quoi. Donc, on est plus de 400. Enfin, c'est dingue. Deuxième effet, l'effet de parc. L'effet de parc, ça veut dire que plus il y a de vélos, plus on peut en fabriquer des vélos différents, mieux adaptés à l'usage. On peut trouver donc plus de réparateurs, plus de gens qui en ont, plus d'entraide entre les gens. Enfin bref, plus le parc s'agrandit, plus ça favorise l'agrandissement du parc. Et on le voit bien avec les vélos cargo en ce moment. Les vélos cargo, ils étaient inconnus en France il y a 10-15 ans, il n'y en avait quasiment pas. Aujourd'hui, ça se vend comme des petits pains.
Ou le vélo électrique aussi.
C'est coûteux, hein, un vélo cargo, c'est coûteux. Ça coûte quoi, 4 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000, ça dépend s'il y a assistance électrique ou pas. Enfin, c'est pas donné, quoi. Pourtant, ça se vend très bien aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que maintenant, on est à peu près sûr, dans les grandes villes seulement pour l'instant, de pouvoir le faire réparer, chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans. Même dans les petites villes, maintenant, on commence à en voir. Troisième cercle vertueux, c'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. On sait bien, Internet est l'exemple le mieux connu, Internet, plus Internet se développe, plus Internet est attractif, plus Internet se développe. Ok ? Moi, je me souviens très bien, en 1995, quand Internet est apparu, tout le monde se disait, mais il n'y a rien sur ce réseau, à quoi ça va nous servir ? Ça fait sourire aujourd'hui. Hein ? Bon, vous n'étiez peut-être pas né, vous, mais en tout cas, moi, j'ai connu cette période héroïque du début d'Internet. Au début, ça n'avait pas grand intérêt. Aujourd'hui, évidemment, on ne pourrait plus s'en passer. Et ben, c'est la même chose avec le réseau cyclable. Plus la ville est adaptée au vélo, plus il est intéressant de faire du vélo, et plus il est intéressant de faire du vélo, plus le réseau a tendance à se développer parce qu'il y a du monde sur le réseau, parce qu'il faut élargir maintenant les pistes cyclables, on en est là. Et quatrième effet vertueux, c'est ce qu'on appelle la sécurité par le nombre. Ça veut dire que plus il y a de cyclistes, plus ils sont en sécurité. Et plus ils sont en sécurité, plus il y a de cyclistes. Vous voyez, c'est encore un autre cercle vertueux. Alors, ça, je ne sais pas si vous connaissez ce cercle vertueux-là, mais effectivement, quand il y a plus de cyclistes, on les voit mieux dans le trafic, on fait plus attention à eux. Une partie des cyclistes étant aussi automobilistes, on a des automobilistes maintenant qui font par ailleurs du vélo et qui donc font plus naturellement attention au vélo. Enfin bref, tout ça tourne. Et là encore, on a un cercle vertueux. Donc ces quatre cercles vertueux, en fait, se confortent les uns les autres et créent une dynamique très puissante en faveur du vélo, indépendamment des crises. Et s'il y a des crises, évidemment, ça accélère encore tout cela. Mais on n'a donc pas besoin aujourd'hui des crises pour que le vélo prenne du poids, enfin, augmente, que sa pratique augmente, mais les crises vont aider à accélérer encore tout cela.
Ah, vous me faites rêver, Frédéric. Et puis une dernière question concernant votre livre. Quand il est sorti, il y a maintenant un peu plus de 5 ans, est-ce que il y a des autorités qui vous ont contacté, qui vous ont demandé des conseils? Et quelles conséquences, plus ou moins inattendues, il y a eu à la sortie de votre livre?
C'est vrai que je suis beaucoup sollicité par les associations, mais pas seulement, par des élus de toutes sortes. Comme ils découvrent aussi que je travaille sur en fait l'ensemble des modes de déplacement et vraiment pas que sur le vélo, ils font de plus en plus appel à moi pour que je les aide à comprendre leur politique de mobilité. Bon, cela dit, je ne suis pas un bureau d'études, je suis un chercheur et je ne cherche pas particulièrement à faire des conférences. Enfin, j'accepte quand même pas mal de choses. Je cherche au contraire à travailler les fondements de tout cela, vous voyez, les quatre cercles vertueux, là, dont j'ai parlé, ça, c'est un travail de recherche que ne font pas les bureaux d'études. Les bureaux d'études, ils ont autre chose à faire. Eux, ils répondent à une commande. En tant que chercheur, moi, je ne réponds pas à une commande. J'essaye de comprendre fondamentalement comment les choses se passent.
Est-ce qu'il y a moyen de retrouver une de vos conférences sur Internet?
Oui, j'accepte toujours d'être filmé.
Merci beaucoup, Frédéric. À bientôt.
À bientôt, oui.
Je suis ravi qu'en France, on ait un gars comme Frédéric Errand, un gars qui soit aussi minutieux sur la culture vélo, sur les chiffres, etc. Ça fait progresser les choses, c'est vraiment extraordinaire. Si vous pouvez lire Le Retour de la bicyclette, c'est un de mes livres préférés concernant la culture vélo. Eh ben, il va être l'heure de se quitter, les copains. On va partir en musique avec KCO. Le titre, c'est Une Seconde. N'oubliez pas de nous liker, de nous commenter, de partager. Regardez s'il n'y a pas des radios associatives près de chez vous qui pourraient nous diffuser pour la prochaine saison de Pause Vélo. On est content que vous nous écoutiez et si vous pouviez en parler à vos copains, ça serait du bonheur en barre. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo!
C'est une seconde, rien qu'une seconde, plus qu'il le faut pour s'accrocher. Mon âme s'ouvre et mes pieds fondent dans son morceau d'éternité. Quand on se croit, ses yeux me sont déjà m'effondre sans bouger. S'il faut de tout pour faire un monde, tu as tout pris et rien laissé. Toi, tu t'en fous à tous les coups, tu n'as pas non plus sourcillé. Si je mets l'histoire bout à bout, puisqu'on sait seulement regarder. J'avoue qu'il n'en faut pas beaucoup pour illuminer mes journées. Illuminer peut-être fois m'aveugler pour un reflet. Faut-il que le temps presse? Pourquoi passer à toute vitesse? Pourquoi faut-il que le temps presse? Pourquoi passer à toute vitesse? D'autres secondes nous croiser. Je ne laisserai au hasard que le temps de nous approcher. Et dans l'élan de nos regards sans peut-être même parler, au risque de sembler bizarre, je m'en irai t'embrasser. C'est une seconde, qu'une seconde plus qu'il nous faut pour s'accrocher. Mon âme s'ouvre, mes pieds fondent dans son morceau d'éternité. S'il faut de tout pour faire un monde, tu as tout pris et rien laissé. S'il faut de tout pour faire un monde, tu as tout pris et rien laissé.